une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui j'ai le bonheur d'être avec Marie-Odile Mignot qui est membre de l'association Dolce Cinema ainsi que Chu Aiello qui est la co-réalisatrice du documentaire, excusez-moi pour la prononciation, Un Paese di Resistenza. Et j'ai le bonheur de co-animer cette émission avec Joël. Bienvenue à toi, c'est ta première émission.
Donc merci, ça va être beaucoup.
Trop cool. Et bonjour à vous, Marie-Odile et Chu.
Bonjour, bonjour à tous.
Donc, Chu, ton documentaire, ton film documentaire, il nous montre l'histoire d'un petit village italien qui s'appelle Riace. Et c'est un village qui était d'origine pas très vivant, mais qui a pu revivre à travers l'accueil de migrants. Donc c'est le maire qui a initié cela. Et ça a donné lieu à plein de belles initiatives, mais donc ça a été mis en péril par l'arrestation du maire, justement, pour aide à l'immigration clandestine. Donc je te laisse peut-être un peu préciser, si tu as envie de dire des choses en plus sur le résumé du film. Et aussi, je voulais te demander comment vous est venue l'idée de ce film avec Catherine Catella, qui est donc l'autre réalisatrice.
Oui, c'est bien ça. En fait, je précise juste une chose, c'est que ce n'est pas le maire qui a été à l'initiative de l'accueil. C'est-à-dire que le Riace est devenu un village d'accueil, puisqu'il s'appelle comme ça, en 98. Parce qu'il y a un bateau de réfugiés kurdes qui a échoué sur la plage la plus proche du village. Et des gens qui fuyaient l'Irak et la Turquie et qui ne savaient absolument pas où ils étaient arrivés, en fait. Et le village qui vivotait avec 700 personnes. Il y en avait autrefois plus de 3000, mais les gens étaient partis en émigration dans tous les pays d'Europe, d'Amérique et tout ça. Donc il restait 700 personnes, dont une majorité de personnes anciennes, et une bande de jeunes gens qui se demandaient comment faire revivre le village. Et ça, c'est le contexte de départ. Et quand ces Kurdes sont arrivés, dans un premier temps, ils ont fait comme on fait souvent en Calabre, ils les ont accueillis. Parce que c'est une terre très hospitalière, en fait. Ils les ont accueillis sans se poser de questions. Il y avait l'évêque du coin qui leur a prêté la grande maison des pèlerins à Riace, et puis ils les ont mis là. Et c'est là que ces jeunes de Riace, qui ont aidé l'évêque à installer ces gens, c'est là qu'ils ont eu l'idée. Ils se sont dit, mais c'est peut-être un cadeau du ciel, ce bateau qui arrive. Et peut-être que ces gens-là peuvent nous aider à revivre. Et donc, ils ont passé cet accord avec ces 200 Kurdes arrivés. On vous passe les maisons abandonnées. Vous les retapez. Vous les retapez avec nous. Vous essayez d'ouvrir des commerces, de recultiver les champs et tout ça. Si vous êtes d'accord, on repart ensemble et on fait un village ensemble. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et ça a tellement bien marché que ces jeunes se sont dit, mais... Après tout, puisque notre village n'est toujours pas rempli, hein, puisque là, il n'y avait que 200 Kurdes, et que les maisons étaient toujours quand même à l'abandon, ben, on va en faire profession. En fait, ce village va devenir un village d'accueil. Et donc, on va faire une proposition à des réfugiés qui arriveraient de venir vivre avec nous et de nous aider à rebâtir le village. Et un de ces jeunes, après avoir pris toutes ces initiatives, est devenu maire. Donc c'est Domenico Luca, nous. Nous, quand on a entendu parler de ça, Catherine et moi, on est allés faire un film parce qu'on trouvait que c'était une idée magnifique. Une idée comme ça, gagnant-gagnant, assez belle. On a fait un film qui s'appelait Un Paese di Calabria, et puis on est reparti très contente de ce film. Et on a appris en 2018, alors qu'on tournait ailleurs, que le maire Domenico Luca avait été arrêté pour encouragement à l'immigration clandestine. Et ça nous a beaucoup étonnés, parce que ça faisait 20 ans qu'il accueillait des gens, donc on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on est reparti à Riace.
Dans quel contexte cette arrestation du maire est survenue? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment en ce moment-là jusqu'à ce que le maire soit arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'arrivée au gouvernement. C'est mon interprétation. Hein. Après, je ne prétends pas que c'est une explication exhaustive, mais quand même qui est plus ou moins acceptée, est arrivée au gouvernement l'extrême droite, la Lega, okay. Et menée par Matteo Salvini. Matteo Salvini, qui est donc le chef de la Ligue du Nord en Italie, et qui est quelqu'un qui se revendique d'extrême droite et qui a fait une fixation absolue sur Riace. Parce que ce fait que Riace accueille des migrants, se redonne la vie et commence à être de plus en plus connu, ça a posé un problème à ceux qui ont fait toute leur campagne à dire on va repousser les réfugiés, on va protéger l'Italie, on va arrêter les bateaux, c'est ce qu'ils font, ils bloquent les bateaux, tout ça. Donc il y avait quelque chose dans ce village qui était insupportable à ces gens-là. Et il se trouve que Matteo Salvini est devenu ministre de l'Intérieur. Ça n'a pas aidé Riace. Comment ça s'est passé concrètement? Une lettre anonyme, dont on ne sait pas d'où elle est venue, qui a commencé à dire que le maire détournait les fonds du village, les fonds destinés à l'immigration, etc. Ah. À partir de là, le préfet, qui venait d'être tout nouvellement nommé par le ministre de l'Intérieur, Salvini. Ouais. À partir de là, le préfet a décidé de faire une enquête et d'arrêter le maire pour être bien sûr qu'il ne continuerait pas à faire des bêtises. Donc c'est ce qui s'est passé.
Ah, c'est assez vaste. Mais vous êtes mis sur la réalisation de ce film à deux. Et comment est arrivée cette rencontre et pourquoi vous avez décidé de vous y mettre à deux?
En fait, le premier film qu'on a fait sur Riace, déjà, on l'a fait à deux. Il se trouve que moi, je suis originaire, par une partie de ma famille, de Calabre, de tout près de Riace.
Okay.
Même si je suis né en France, mes parents, mes grands-parents étaient des immigrés qui venaient de Calabre. Catherine, elle, c'est sa famille, une partie de sa famille aussi, arrivée de Sicile. Donc, on avait ça en commun, qu'on était toutes les deux originaires du sud de l'Italie, que donc, par curiosité, on avait visité ce sud de l'Italie, parce qu'on n'y a pas vécu du tout, hein, par contre, et qu'on a été frappés par ce qu'on ressentait de l'hospitalité et de l'accueil chez les gens. Je ne parle pas de façon institutionnelle, mais chez les gens, chez les habitants de Calabre, il y avait ce mot qu'on reprend dans le film qui s'appelle favorite. Faites-moi le plaisir d'accepter ce que je vous donne. Et donc, on se demandait comment parler de cet accueil. Et grâce à la radio, on a entendu une émission de Daniel Mermet qui était sur France Inter, il y a longtemps de ça, sur Riace, qui parlait de Riace. On ne connaissait pas ni l'une ni l'autre. Et même moi, qui étais originaire d'un village pas loin du tout, je n'avais jamais entendu parler de Riace. Et donc, on est allé voir toutes les deux en se disant, c'est peut-être ça qui va nous permettre de parler de cette terre hospitalière. En tout cas, de la partie hospitalière de cette terre, plutôt.
Ok. Mais cet événement...
Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Je vous interromps, pourquoi à deux? Donc, parce qu'on avait, on travaillait ensemble déjà depuis plus de 20 ans. Ah. Parce que je suis réalisatrice de films documentaires pour la télé. Et Catherine a été la monteuse de tous les derniers films que j'ai faits. Et quand on est en documentaire, un monteur a, de mon point de vue, autant d'importance que le réalisateur. Donc, on a décidé de faire, de signer ensemble. Voilà.
C'est génial. j'imagine que vous n'étiez pas à Calabre au moment où les événements sont arrivés. Comment vous les avez appris et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous-même vous l'avez pris quand vous avez appris ces événements?
On parle de l'arrestation du maire, hein?
Oui.
Alors comment on l'a appris? On était en train de tourner en Grèce. On était en train de finir un film qu'on a fait en Grèce, et on a reçu un SMS, parce qu'on avait gardé des liens à Riace. Et on a reçu un SMS nous disant « Domenico Lucano, le maire de Riace, vient d'être arrêté. Il y a une grande manifestation à Riace, et dans 3 jours pour le soutenir. » Tant que nous, on avait beaucoup aimé ce village, on l'avait connu intimement, on ne pouvait pas croire qu'il avait fait quelque chose de mal. Donc on a dit, on prend un avion, on va le soutenir. Donc au départ, on est parti à Riyadh pour aller à la manifestation.
Ok.
Comme on est quand même des réalisatrices, on a emmené une caméra au cas où. Et on a fait des images de cette manifestation sans se dire qu'on allait faire un film.
Ok.
C'était juste pour mémoire. Et puis, après cette manifestation, on a commencé à chercher à comprendre pourquoi il était arrêté. Il était assigné à résidence à ce moment-là. Il n'avait pas le droit de parler à personne. Donc, on ne pouvait pas lui poser la question à lui. Donc, on a essayé comme ça de demander aux gens dans les rues de Riyadh. Et là, on a compris qu'il y a une vraie machination qui était en train de se mettre en route. Et on s'est dit, il va falloir qu'on la raconte. Parce qu'on lisait des articles de journaux terrifiants, parlant de Domenico Lucano comme d'un grand mafieux et tout ça. On lisait des trucs comme ça, donc on s'est dit, il faut que quelqu'un raconte la vraie histoire. Donc il faut qu'on la suive. Donc on a décidé de faire un film, et là on a commencé à chercher producteurs, les moyens pour faire ce film. On l'a commencé, on n'avait pas un sou, mais avec des copains qui étaient d'accord pour filmer gratuitement, tout ça. Et puis, bon, petit à petit, on a monté la production parce qu'on savait que ça allait être une histoire longue, ça a duré 4 ans.
Donc, c'était parti à la base sur une destruction de l'image du maire.
C'est ça. De l'image du maire et du modèle que représentait son village. Parce que ce que Riyadh disait au monde, en fait, c'est que non seulement l'immigration n'est pas forcément... ne correspond pas forcément au mot flux migratoire, problème de l'immigration, grand remplacement, j'en passe. Mais peut-être c'est au contraire, surtout dans un pays aussi vieux que le nôtre, je parle de l'Italie, c'est peut-être au contraire la chance qu'on attendait. Et ça, c'est un discours que l'extrême droite ne peut pas entendre. Et Riyadh était en train de montrer qu'avec ces nouveaux arrivants, un village qui était... qui vraiment, comme beaucoup de villages en Calabre, hein, se serait vidé complètement une fois que les vieilles personnes étaient mortes. Que tout à coup, ce village revoyait des enfants courir dans les rues. Et ça, c'est quelque chose que l'extrême droite ne peut pas entendre. On ne peut pas dire « je bloque les bateaux, j'interdis qu'on sauve les gens en Méditerranée » et en même temps être d'accord avec Riyadh, c'est pas possible.
Ouais.
Et donc là, il y avait un conflit, parce que c'est un modèle, c'est-à-dire que Riyadh a commencé à être connu. Il y a eu plus de 500 villages en Italie qui ont appliqué le modèle de Riyadh. Parce qu'il y a beaucoup de villages abandonnés en Italie, comme chez nous en France d'ailleurs. Et donc ça commençait à prendre trop d'ampleur. Il fallait arrêter. L'extrême droite voulait le pouvoir, elle l'a d'ailleurs, en Italie, avec Giorgia Meloni. Et donc il fallait frapper un grand coup contre ce modèle.
En tout cas... Merci beaucoup, Madame Chou. Madame Odile, vous avez programmé ce film. Je me trompe peut-être ?
Pas du tout, non. On l'a okay. programmé pas tout seul à Dolce Cinema, puisqu'on est ravis d'avoir pu réaliser ce programme avec l'association de Voiron, de cinéma italien, qui s'appelle Amitié Voiron-Bassano. Et on avait vraiment, vraiment à cœur de montrer ce film à Grenoble et dans la région. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a trois séances du film. Il y en a déjà deux qui ont eu lieu à Grenoble et à Voiron. Mais il y en a une troisième à Pontcharra, samedi. Et c'était pour nous une évidence, quoi. Alors, il fallait montrer ce film. Et un film qui d'ailleurs intéresse aussi bien les adhérents de Dolce Cinema, mais aussi tous les gens qui sont sensibles à cette question, bien sûr.
Ok. Ce que je voulais vous demander, c'est qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film ? Quel intérêt vous avez pour ça ?
Je pense qu'on pourrait y passer beaucoup trop de temps. Non, mais je pense qu'il vaut mieux, je pense, laisser la parole à Chou là-dessus. Nous, de toute façon, c'était évident quand on l'a présenté à l'équipe de cinéma et qu'on en a discuté. Il n'y a même pas eu de débat. On s'est dit tout de suite, il faut montrer ce film. Donc, c'était évident. C'est des choses qu'on ne voit pas. Il n'y a pas forcément... D'abord, on ne connaissait pas Riace. On ne connaissait pas cette histoire, sauf ceux qui avaient vu le précédent film. Et puis, ça a des résonances tellement évidentes chez nous que, évidemment, qu'il fallait montrer ce film. Mais les gens, à la sortie des séances, sont assez bouleversés hein, quand même par le film. Hein. Ouais. Vraiment, oui, oui. Vraiment, ce maire en plus, qui est quand même emblématique, qui a vraiment... il faut voir le film hein, pour
qui a entrepris de bonnes actions en gros et
qui a vécu quelque chose d'absolument incroyable et qui continue d'ailleurs, on va en parler hein.
Et donc oui, en parlant du maire, donc on a vu quand il a été arrêté, ça a été un sacré coup de massue sur le village. Et Chu, est-ce que tu peux un peu essayer de nous décrire l'ambiance avant cette arrestation et l'ambiance après? Je pense qu'il y a vraiment une grosse différence, quoi.
Ah oui, oui, il y a une grosse différence. On était dans un village que nous, on avait quitté comme un village joyeux, où il y avait beaucoup de fêtes, où il y avait beaucoup d'animation, où il y avait 3 écoles primaires, où il y avait plusieurs épiceries, il y avait une boucherie, il y avait un marchand de tabac, de journaux, etc., un dispensaire médical. Je dis ça parce que quand on est arrivé, après l'arrestation de Mimo, il n'y avait plus rien de tout ça. Il n'y avait plus d'école. Elle a été fermée. Il y avait, la plupart des commerces avaient fermé. On ne voyait plus d'enfants. Les gens qui étaient... les réfugiés qui étaient là en demande d'asile... puisqu'il y avait une partie des réfugiés qui étaient demandeurs d'asile à Riace, qui suivaient un programme pendant 2 ans. Ils avaient été arrêtés, enfin pas arrêtés, et on était venu les chercher avec un bus, et on les avait emmenés dans des camps de réfugiés. Donc ils n'étaient plus là. Donc nous, on est arrivés dans un village pétrifié, qu'on avait beaucoup aimé, qu'on connaissait très bien, on connaissait tout le monde, vraiment tout le monde, hein, parce qu'on y a passé beaucoup de temps quand même, hein, c'était... un peu comme la famille. Je dis qu'ils étaient toujours contents de nous voir arriver, parce qu'on les a beaucoup filmés. Ils étaient aussi très contents de nous voir repartir, parce que des fois, ils en avaient marre, quoi, d'être toujours sous notre regard comme ça. Mais là, quand ils nous ont vus arriver, ceux qui restaient là, ils étaient dans un état de sidération complète. Ils voulaient absolument pas qu'on les filme, parce que chacun avait... Parce qu'avec Domenico Lucano, il y avait 17 personnes qui étaient inculpées. Donc c'est 17 familles. Donc chacun avait un cousin, avait quelqu'un de concerné, tout ça. Donc le village était écrasé de honte. Parce qu'il se disait, si un ministre nous accompagne, c'est un village perdu en Calabre, de paysans, tout à coup il y a le ministère public qui l'attaque, donc ils se disent, on a fait quelque chose. On peut pas, le gouvernement s'il nous attaque, c'est qu'on a vraiment fait quelque chose. Et donc ils ont commencé à se demander qui avait fait quoi, à se soupçonner les uns les autres. Et il y avait une ambiance absolument délétère, quoi. Et surtout de grand silence. Plus personne parlait. Et la plupart des lieux, des ateliers d'artisanat, tout ça avait fermé. Donc il n'y avait plus d'enfants non plus. Donc on est vraiment, c'était comme dans les contes de fées. Vous savez, quand tout s'arrête, là, qu'il y a une baguette magique et tout s'arrête et tout est figé. Et donc pour nous, ça a été aussi bouleversant que pour les habitants de Riace. Parce que Riace, ça représentait pour nous une petite lumière en Méditerranée, une espèce d'utopie réaliste. Et donc, de voir qu'elle pouvait s'arrêter aussi brutalement, qu'une harmonie qui avait mis 20 ans à se construire bien pouvait s'arrêter en quelques mois, on n'était pas d'accord. C'est pour ça qu'on a fait le film. Parce qu'on a dit, on les connaît, ils ne vont pas se laisser faire. Ça va être dur, mais ils ne vont pas se laisser faire. Ils ne se sont pas laissés faire.
Mais c'était donc un réel choc et bah, je pense qu'on voit cette transition d'un film à l'autre aussi. Je sais pas, j'ai pas vu le premier film, mais Marie-Odile, peut-être que tu peux en témoigner.
Je préférerais que ce soit... Ouais.
le premier film s'appelle Un paese di Calabria. Il est facile à voir, il suffit de taper le titre sur Internet. Comme il a été terminé il y a 7 ans, il est maintenant libre d'accès, enfin il est sur des plateformes... genre à 2 ou 3 euros, mais il est pratiquement libre d'accès. Donc oui, il y a une grosse différence. C'est-à-dire qu'on a fait un premier film, c'était un conte. C'était une réalité, c'était une utopie, mais en même temps, c'était aussi beau qu'un conte. C'était pas non plus quelque chose de supra-joyeux, parce qu'on partait de l'histoire de ma grand-mère, qui avait quitté la Calabre dans une situation de pauvreté complète, dans une charrette, qui partait qui rejoindre son mari en France, qui lui-même avait quitté. Et ces gens mouraient de faim en Calabre, vraiment. Donc, on avait mis en parallèle le récit de ces gens qui étaient partis, qui avaient quitté cette terre parce qu'ils ne pouvaient plus y vivre, avec ce qu'on voyait de Riatch aujourd'hui, qui accueillait des gens qui, eux, ne pouvaient plus vivre ailleurs. Et donc, il y avait cette espèce de mouvement de l'humanité qui fait que les populations se sont toujours déplacées. Hein. Quand elles ne peuvent pas vivre quelque part, elles vont vivre ailleurs. C'est quelque chose d'assez classique. Donc, on montrait avec ce film que ça nous concernait tous, finalement. Et donc, on avait en parallèle le récit de cette vieille dame qui avait quitté le village et les images de ce village qui accueillait. Donc, oui, en effet, c'est un film joyeux, même s'il y avait une mélancolie. Parce que l'exil, il était vrai pour tout le monde. Il est vrai pour les exilés qui vivent à Riace. Et il est vrai pour mes grands-parents qui ne sont jamais retournés en Italie. Donc, il y avait une espèce de compréhension de l'exil, on va dire. Donc, ça, c'est le premier film. Dans le deuxième film, on a affaire plus à la violence d'extrême droite, et celle dont on... C'est aussi ce qui nous a motivés. Celle dont on sentait qu'elle nous menace aussi, nous, ici, dans notre pays, en France, en Europe. On voit comment se dessinent les choses. Et d'une certaine façon, comme ils ont attaqué un village qu'on aimait, comme ça, qui nous tenait à cœur, on voulait dire aussi, attention, s'ils attaquent des gens aussi forts que les gens de Riace, ils vont attaquer des gens plus faibles. Et donc, faisons attention.
Oui, forcément, c'est une situation qu'on voit là en Italie, mais qu'on peut aussi facilement rattacher à la France. Et pour plonger un petit peu dans ce film, je vous propose d'écouter tout de suite la bande-annonce.
Che cosa è successo? Ma che cosa ho fatto? Perché tutto questo? E tante cose alle quali io non avevo dato mai una giusta, diciamo, considerazione, mi apparivano sotto una luce nuova.
È una notizia incredibile. Domenico Lucano, sindaco di Riace, è stato messo agli arresti domiciliari, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Riace! Pazienza! Lucano libero!
Riace rappresenta un'anomalia che si vuole ricondurre dentro i gangli della normalità. Quando Lucano dice: io non ho fatto niente di straordinario, ho fatto incontrare persone senza casa con case senza persone. E qual è il problema?
È andato buio. È luce di Riace che manca, io dico così. Era luce di Riace. Allora è andato come un deserto.
Si agitavano personaggi che volevano costruire, hanno costruito paura, risentimento, ostilità.
Cittadini di Riace e della Locride, accogliamo con un grande applauso Matteo Salvini!
Accogliere, proteggere, promuovere, integrare, i quattro verbi il Papa sempre li dice. Questa è l'esperienza di Riace. Il Papa ha scritto nel 19 questa enciclica, ma Mimmo l'ha scritta su queste case.
Si può vivere senza, senza avere un obiettivo da raggiungere, una utopia da raggiungere, un sogno, non lo so.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et vous écoutez l'apérophonie. Vous venez d'entendre la bande-annonce du film documentaire Un Paese di Resistenza, co-réalisé par Chu Aiello, qui est aujourd'hui avec nous. Et donc à ce propos, Mimmo Lucano, le maire du village, il dit dans ce film « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai installé des personnes sans maison dans des maisons sans personnes ». Donc c'est une citation qui est assez forte et je voulais vous demander, vous, Chu, qu'est-ce qu'elle vous évoque ?
Elle m'évoque je ne sais pas, un espèce de pragmatisme bienveillant. C'est-à-dire une évidence. Moi, je suis toujours très étonnée quand on est idéologique, comme le sont en ce moment beaucoup de mouvements politiques. Je suis très étonnée qu'on ne soit pas pragmatique. C'est très simple de dire pourquoi ne pas donner des maisons et pourquoi les laisser tomber en ruine. Et comment se fait-il que dans notre pays, par exemple, où beaucoup de villages sont abandonnés, où n'ont presque plus personne, comment se fait-il qu'il y ait tant de gens qui sont à la rue et sous des tentes? Donc moi, c'est un constat, on va dire, un peu bête, quoi. Et le constat de Lucano, c'est ça. Moi, je donne une maison à des gens sans maison, enfin, des maisons sans personne, etc. Et voilà, moi, ça m'évoque un espèce de bon sens qui devrait être au-delà de toute idéologie, qui devrait être pragmatique. Et je suis étonnée quand on parle toute la sainte journée des déserts médicaux, des villages abandonnés, du problème de la ruralité, tout ça, qu'on n'ait pas essayé d'imaginer un plan de revitalisation de ces villages. Et l'Italie, qui malheureusement est en train de changer, puisqu'elle est maintenant en main d'extrême droite, mais avait fait ce laboratoire qu'on appelait SPAR, qui était une allocation qui était donnée à un village qui avait à la fois un projet d'intégration de réfugiés, mais en même temps un projet économique pour le village. Et donc, ça, moi, ce que ça m'évoque, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le donnant-donnant. C'est-à-dire, on n'est pas dans la compassion, on va abriter des pauvres et tout ça. Non, on est dans l'échange, dans des gens qui vont apporter quelque chose à un village, et le village va leur apporter quelque chose. C'est ça que ça m'évoque.
Oui, et c'était un projet qui était aussi durable dans le temps, parce qu'il a duré 20 ans. Donc ça prouvait bien que ça marchait et que tout allait bien.
Et d'ailleurs, ça marche, ça remarche. Hein. C'est-à-dire, après toute cette histoire, bon, je ne vais pas dévoiler la fin du film, mais heureusement, ça finit quand même plutôt bien. C'est qu'après toute cette histoire, l'accueil Ariadne a redémarré. Mais c'est normal, parce que maintenant, il y a une génération qui a vécu comme ça. C'est-à-dire, tout ça a commencé en 98, c'est-à-dire il y a 20 ans. Donc maintenant, on a des gens, ben, on commence à voir des jeunes de souche qui se marient avec les enfants de ces réfugiés qui sont arrivés. Donc moi, je dis que dans 10 ans, on n'en parlera même plus, parce que la mixité se sera faite. Elle se fait tardivement, c'est normal, puisque les gens arrivés à Riach étaient des gens très jeunes et que le village était dominé par les personnes âgées. Donc il n'y a pas eu beaucoup de mixité au départ. Mais par contre, maintenant, ça commence. Une génération en train de passer et ça commence. Donc malgré les discours extrêmement violents qu'on entend en ce moment, moi, je suis assez confiante dans le réalisme des humains.
Super. Bah oui. Parlant de la réalisation, de la construction de ce film, je voudrais vous demander quel a été le moment le plus marquant pour vous dans le tournage ou pendant le montage, enfin, tout le travail de construction du film.
Alors, il y a eu deux moments qui ont été marquants. Il y a eu quand on a commencé à tourner et qu'on était dans ce village obstinément silencieux, traumatisé, malheureux, qui ne savait plus ce qu'il allait devenir. Donc nous-mêmes, on ne savait pas ce que notre film allait devenir, quoi. Parce qu'on se disait, est-ce que c'est intéressant de faire un film qui va désespérer tout le monde? On ne veut pas faire ça. Donc ça a été un moment un peu charnière avant qu'on revoie les jeunes du village se remettre en route et dire, allez, on va se battre. Donc il y a eu un moment comme ça où on avait l'impression que plus personne ne pouvait rien faire, que tout le monde était paralysé. Le deuxième moment, c'est quand on a filmé la sentence qui a frappé le maire de Riace, qui a quand même été condamné en première instance à 13 ans et demi de prison. Et donc là, on était tout proche, j'étais avec lui. Il a même voulu venir s'asseoir à côté de moi pendant le procès et pas sur le banc des prévenus. Donc on était vraiment en intimité comme ça, on le filmait. Et il était arrivé à ce procès après 4 ans d'instruction quand même, en se disant, ça y est, je vais être libéré. C'est fini, ces enquêtes, ces machins, tout ça. Donc, il était persuadé que tout allait se passer bien. Il est arrivé avec un grand sourire. Et donc, on était à entendre ce juge. Et on entend le juge dire que Domenico Lucano est condamné à 13 ans et demi de prison. Et ça a été le ciel qui nous est tombé sur la tête, à tous, dans cette salle de tribunal. Donc voilà un deuxième moment très marquant.
Ah, c'est 13 ans et...
13 ans. 13 ans de prison, c'est-à-dire c'est ce qu'on donne à des crimes de sang. Pour quelqu'un qui a commis des crimes de sang, des grands chefs mafieux, des crimes. C'est une punition pour un criminel, pas une punition pour un maire, même s'il a détourné de l'argent, on ne lui donne pas 13 ans de prison. Donc ça, ça a été le deuxième temps très fort, très traumatisant, très important du film, parce que c'est ce moment-là où on a vu que les Riachese, qui jusque-là n'avaient pas parlé, jusque-là se cachaient,
ouais,
allaient se devenir solidaires du maire, étaient en train de comprendre que tout ça était une machination, et se remettaient tous ensemble pour se battre. Donc ça, ça a été bizarrement, ces 13 ans de prison, ça a été le début du combat de Riace, vraiment.
Et quelle était la réaction des gens du village qui... Enfin, j'imagine qu'il y avait des gens du village qui étaient venus assister au procès. Quelle était leur réaction? Comment ils se sont comportés?
Ben, déjà, leur réaction, elle a été bouleversée parce qu'avec lui, il y avait 17 personnes. Hein. Ouais. Ces gens-là, on ne les a pas filmés parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les filme. Mais ils étaient là quand même, ils étaient dans le procès. Mimo, il a eu 13 ans de prison. Mais par exemple, celle qui était secrétaire de l'association municipale... Cosimina, qui était un peu une vieille fille comme ça, qui va beaucoup à la messe, qui tout ça, qui s'occupait des comptes de l'association, elle a pris 8 ans de prison. Il y avait tous les gens qui ont aidé, il y en a un qui avait donné ses terrains parce que il n'arrivait pas à les cultiver. Il a donné ses terrains à l'association en leur disant voilà, vous pouvez cultiver. Il est devenu associé dans l'association. 10 ans de prison. Donc, ces gens-là, eux-mêmes, leur réaction, ben, elle était, elle a d'abord été terrible parce qu'ils ont tous pris des peines de prison. Mais là aussi, ce fait que tout le monde ait pris des peines de prison, ça a été quelque chose qui a finalement réuni les gens. Parce que certains avaient soupçonné Mimo Lucano d'avoir fait un truc dans son coin, d'avoir pris de l'argent ou je ne sais pas quoi... Et peut-être au détriment des autres. Et puis là, on a compris, en lisant tous ces actes d'accusation, que tout ça était faux complètement. Donc, je dirais que la réaction des gens du village, ça a été de parler, alors qu'ils ne parlaient plus depuis des années. Ça a été de parler et ça a été de dire, on ne va pas se laisser faire.
Et
je dirais que c'est ça.
Juste, est-ce que cette réaction, elle était unanime? Ou est-ce qu'il y avait aussi des différences de point de vue entre les habitants du village? Il y en avait peut-être certains qui changeaient d'avis, ou je ne sais pas.
Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens déjà qui ont changé d'avis, parce qu'au début, si vous voulez, comme c'est le ministère public, il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'il avait des bonnes raisons, le ministère public, de faire ça. Donc, il y a des gens qui ont dit « non, mais il a fait quelque chose ». Il y a eu des élections municipales entre les deux. Donc il y a certains, des gens qui étaient du côté de Mimo Lucano, mais qui ont préféré faire une liste en disant on ne va pas se mélanger avec quelqu'un qui est inculpé. Donc on a eu deux listes, des gens qui pensaient pareil sur le projet de Riace contre la liste qui a été soutenue par l'extrême droite. Et donc mathématiquement, ben, c'est la liste d'extrême droite qui a gagné, puisque ces deux listes se sont fait concurrence elles-mêmes. Donc tout ça, ils l'ont compris. Ils l'ont compris petit à petit. Et donc, ils ont, après cette réaction de défiance qu'ils ont eue, de reproches, de se soupçonner les uns les autres, je pense qu'il y a eu quand même un regard assez unanime. Et même chez ceux qui étaient dans l'opposition, et qui sont dans l'opposition depuis toujours à Riace, hein, parce que Riace, c'est pas... je veux dire, c'est pas des scores soviétiques que faisait Mimo Lucano. Il avait 52% des gens qui votaient pour lui. Mais même ceux qui votaient pas pour lui se sont sentis attaqués dans leur identité de village, même ceux-là. Parce que même ceux qui votaient contre Mimo Lucano, ils n'ont jamais voté contre l'accueil. C'est pas ça que ça voulait dire. Ils étaient contre la personnalité, ils auraient préféré développer telle activité plutôt qu'une autre. Ils avaient beaucoup d'opposition. C'est les villages, hein, les gens se disputent quand même. Mais il n'y avait pas... finalement, au fond de même, il n'y en a aucun qui était contre l'accueil. Donc ça, c'est important aussi, parce qu'ils ont compris que le procès qui était fait était un procès qui était fait à l'accueil.
Vous avez réalisé deux films, deux différents films sur, sur la même thématique, on va dire. Quelles sont les différentes approches entre ces deux films-là ?
Pour moi, la différence fondamentale, c'est que le premier film qui racontait donc cette utopie, c'est un film qu'on pouvait prendre le temps de faire. On s'est installé à Riatch tranquillement, on faisait nos images, on voulait lui donner au premier film un côté un peu poétique, on se rappelait des grands films italiens qu'on avait aimés, donc on donnait un climat comme ça, on faisait des cadres très, très travaillés. On avait parfois deux caméras, donc la différence est beaucoup dans la forme. Et on faisait dans les deux cas, on faisait assez peu d'interviews de toute façon. On interviewait que les gens qui voulaient parler. Et donc il y a quelque chose de calme et posé dans le premier film et de très cadré, je dirais, artistiquement plus travaillé peut-être. Et dans le deuxième film, on était tenu à une certaine actualité. Et ça change beaucoup la façon de filmer. C'est-à-dire quand vous devez aller filmer une audience et qu'on vous dit il y a l'audience ce soir et puis finalement elle n'est pas ce soir, elle est demain et finalement elle n'est pas demain, elle est après-demain. Vous devez être prêt à partir, prêt à aller faire. Donc vous ne pouvez pas faire ce qu'on a fait dans le premier, c'est-à-dire chiader un cadre, dire on va se mettre là, quand on va regarder des gens qui fabriquent du fromage à Riatch et dans le premier film, on a tout notre temps pour choisir, pour dire on va faire un plan là, un plan comme ça. Là non. Quand on est un procès et qu'on attend la sentence, on n'a pas notre temps.
Il faut donc juste filmer et continuer.
Voilà. Et ça a été le fait d'être dépendant. On ne l'a jamais fait parce que on n'est pas du tout des documentaristes d'actualité, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, plutôt la réflexion sur la société et tout ça. Donc, c'est peut-être la première fois qu'on est confronté au fait qu'il faut suivre les événements. Voilà. Ça, c'est la grosse différence.
Mais alors, pourquoi vous avez décidé de mettre un narrateur dans ce film ?
Pour retrouver justement ce que nous, on aime. C'est-à-dire, nous, on aime raconter des histoires. Et ce narrateur, c'est quelqu'un qu'on a rencontré tout au début, en se promenant dans la Calabre, pendant l'été en Calabre, sur toutes les places du village.
Tout au début, c'est quand ?
Quand on est allé pour la manifestation. Okay. On se demandait comment on allait raconter l'histoire. Et tout de suite, on a pensé avoir quelqu'un qui allait nous donner un contrepoint de l'histoire. Et donc, en se promenant en Calabre, on est tombé sur un conteur qui était sur une place de village et qui racontait des histoires de pêcheurs calabrais. Parce qu'en Calabre, il y a des conteurs dans tout le pays. Et pendant les périodes chaudes et tout ça, où les gens sortent le soir, ils racontent comme des veillées. Ils racontent des histoires. Donc ça, il y en a qui chantent aussi, on les appelle les cantastories, qui chantent l'histoire du village, par exemple. Et donc lui est un calabré, il racontait une histoire calabraise. Et donc c'est comme ça qu'on lui a demandé, quand on a enfin décidé de faire ce film, on lui a dit, nous on voudrait que, on a besoin de quelqu'un qui raconte pour nous sortir de la réalité dont je parlais, d'actualité, tout ça, pour prendre un peu de recul. Pour garder l'aspect fable qu'avait le premier film, cet aspect de raconter des histoires, pour avoir aussi un personnage, bon après c'est pas du tout votre génération, mais nous on a beaucoup aimé les films de Fellini, à Marcourt par exemple, où il y avait un personnage qui se baladait dans le village et qui de temps en temps faisait un petit commentaire sur le village. Donc on était dans cette idée-là. Donc c'est une idée, celle-là, de mise en scène uniquement.
Donc en gros, les éléments de ce film-là sont arrivés, mais vraiment tout seul comme ça.
C'est ça.
C'est génial. Il y a une musique, moi j'ai regardé le film, il y a une musique qui est revenue, souvent une musique célèbre, Bella Ciao. Qu'est-ce que ça représente dans le film ? Et dans ce village-là, parce que c'est vraiment revenu plusieurs fois.
Ben oui. Alors déjà, Bella Ciao, ça veut dire un bel revoir, un bel adieu. Donc on était quand même avec un maire qui quittait son village, puisque il avait été... Donc il y avait cet aspect tout à fait métaphorique. Mais la réalité, c'est que Bella Ciao, c'est le chant des partisans, c'est le chant de la résistance en Italie. Et donc, toute personne qui manifeste sa résistance et tout ça va chanter le Bella Ciao. Bella Ciao, c'est vraiment... Et on a vu maintenant des femmes iraniennes chanter le Bella Ciao dans la rue. On a vu dans le monde entier, les gens qui résistent commencent à chanter le Bella Ciao. Parce que c'est une chanson qui dit, en gros, je me suis réveillée un matin, j'ai vu arriver l'envahisseur, donc je dois partir dans la montagne, je vais mourir. Tu dois m'enterrer, mais tu dois planter une fleur pour qu'on ne m'oublie pas, etc. C'est ça, la chanson.
Donc c'est un chant révolutionnaire.
Oui, partisan, on va dire.
Partisan. Et donc, il y a une résistance par le chant, mais aussi par le cinéma documentaire, comme vous l'avez fait. Donc je voulais demander quel rôle joue ce cinéma documentaire pour la transmission de ces récits de lutte avec réalité.
Ben moi, je crois que ça joue un rôle très important, parce que finalement... Les lieux de rencontre et de convivialité ne sont pas si importants que ça. Surtout, bien sûr, depuis qu'on peut voir n'importe quoi, finalement, chez soi, sur un ordinateur. Donc le cinéma documentaire a cette vertu de pouvoir être présenté dans des salles et susciter des débats, et donc faire de la rencontre, faire du lien. Donc pour moi, ça, c'est une grosse vertu quand même. Parce que je pense que si vous voyez notre film sans que personne parle de rien sur votre ordinateur, sur un petit écran et tout ça, c'est pas la même chose que si vous partagez cette expérience avec d'autres gens. Et pour moi, le cinéma documentaire, il a beaucoup ce travail-là à faire. Autant la fiction aussi, d'ailleurs. Hein. Mais le documentaire, comme c'est quelque chose qui est... c'est un cinéma qui est moins facile à voir, moins accessible, il s'appuie énormément sur les mobilisations des associations, des comités divers et variés, tout ça. Donc c'est vraiment un cinéma qui avance avec ceux qui font dans la société. Il n'avance pas tout seul, en fait. Et il est vu comme ça, sinon il ne serait pas vu. Parce que franchement, vous comme moi, on ne va pas ouvrir la porte d'un cinéma pour voir un film documentaire si on n'a pas la moindre idée de quoi on va parler.
Complètement.
Donc il fonctionne autrement que le film de fiction. Il n'a pas de repère, il n'a pas de comédien, il n'a pas de... Donc c'est... Bon, de temps en temps, il a un repère qui a une grande histoire, comme celui qui passe sur l'affaire libyenne en ce moment. Bon, c'est... Mais il y a beaucoup de cinéma documentaire, on ne connaît pas du tout l'histoire qu'ils vont nous raconter. Donc, voilà, pour moi, c'est ce qui est essentiel là-dedans, c'est cet appui sur les citoyens. Collectifs, associations, etc.
Donc un genre cinématographique qui fait du lien, et en parlant de lien, je pense que vous avez aussi noué ça avec les habitants du village. Donc je voulais vous demander quelles personnes, ou même plusieurs personnes, vous ont peut-être marqué, et comment au fil des deux films, vous avez noué un réel lien avec ces habitants.
Il y en a eu plusieurs, hein. Bon, il y a eu bien évidemment Domenico Lucano, qu'on a connu en 2012. Donc ça fait un bon moment qu'on a vu vivre et tout ça. Mais dans les gens de Riace, bon, il y a par exemple l'épicière de Riace, qui était vraiment une petite... qu'on voit beaucoup dans le premier film. Là, dans ce second, elle ne voulait pas qu'on parle d'elle. Et pourquoi? Parce que cette épicière, qui avait la petite épicerie de la rue principale de Riace... elle a épousé un jeune Syrien qui était un réfugié, qui était à Riace. Et quand est arrivée toute cette histoire, on l'entend en voix off dans notre film, ce jeune Syrien était accusé d'avoir épousé, enfin accusé par la rumeur, hein, d'avoir épousé cette femme par intérêt pour avoir ses papiers, alors qu'il les avait, c'est pas vrai du tout. Mais il y a une rumeur comme ça. Et donc elle, par exemple, elle est vraiment typique de... C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Chaque fois qu'on va à Riace, c'est la première chez qui on va. C'est dans son épicerie. On va lui acheter des anchois excellents qu'elle a. Et on discute et on prend les nouvelles du village avec elle. Donc il y a elle qui est quelqu'un de très proche. Il y en a un, deux malheureusement, qui sont décédés, qui sont Bayram le Kurde, qu'on voit en début de film. Et Bayram, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis le premier jour aussi. Et qui a fait partie de la reconstruction de Riace. Il est même à l'origine avec Mimo. Et si la maladie ne l'avait pas enlevé si vite, je pense qu'il aurait pu jouer un rôle déterminant dans le village. Bon, donc Bayram, qui a été une amitié réelle. Et puis Ousmane aussi. Alors Ousmane, lui, c'est quelqu'un qui venait de Somalie et qui est à Riyadh depuis une quinzaine d'années, qui est installé là-bas avec sa famille. Et Ousmane, pendant longtemps, il a tenu le musée des arts et traditions à Riyadh. Et c'était assez marrant, quand vous alliez là-bas, de voir que c'était un Somalien qui vous expliquait comment on travaillait en Calabre il y a 200 ans. Et ce gars-là connaissait la tradition calabraise mieux que n'importe qui dans la rue. Donc on trouvait ça absolument formidable, ce fait que lui, il arrivait avec son histoire d'exil, très douloureuse, de Soudan et tout ça, mais en même temps qui s'était voué aussi à ce village, à le défendre et tout. Donc ça fait partie, voilà. Puis j'arrête pas si je commence à vous raconter. Il y a le vieux Raphaël qu'on voit dans le film. On a vraiment beaucoup d'amis à Riyadh.
De magnifiques rencontres et au final, à la fin, on connaît quasiment tout le village.
Oui.
Et donc ça m'a fait penser, ce documentaire, il m'a fait penser à un autre documentaire où, pour le coup, c'est un Français qui a noué des liens avec des personnes exilées. Donc je vais vous laisser voir la bande-annonce et on en discutera un petit peu après.
Est-ce que vous voulez juste parler comme si vous parliez en direct ?
Ouais, Cédric Héroux, agriculteur, Maurice Souroya, délinquant. J'ai une quinzaine de personnes qui sont chez moi et que je cache.
Cette gamine, elle est légitime de rester en France, hein, la maman aussi, hein, si on leur laisse le droit de faire une demande d'asile.
S'ils n'ont pas de pièce d'identité, ils vont devoir me suivre.
Non, je m'en suis pas.
Mais ils vont me suivre quand même.
Et en fait, on aurait aimé parler avec le préfet des Alpes-Maritimes pour lui expliquer la situation dans la Roya.
On entend dire, oui, mais la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Là, les solutions, il y en a.
Parce qu'ils sont sur le sol français, donc ils devraient être pris en charge par l'État.
Bonjour à la police maintenant, allez.
J'avais confiance en la justice, je pensais que la justice était indépendante et on a la preuve que non.
Ayez confiance, parce que nous défendons la vie, nous défendons des gens.
C'est là-dedans la liberté pour moi. Et moi j'ai envie de continuer d'être libre.
Je demande d'asile en France.
Moi, c'est des histoires personnelles.
Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, je continuerai, je ne m'arrêterai pas.
Et ce sera à vous à prendre le relais, à venir chez moi, que ça continue.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8. Vous venez d'écouter un extrait du documentaire Libre de Michel Tosca, donc qui montre Cédric Héroux, qui est le protagoniste, qui accueille des personnes en situation d'exil dans sa ferme parce qu'il est agriculteur. Et donc, dans cet extrait de documentaire, Cédric Héroux a dit « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Donc, c'est une citation qu'on entend beaucoup, lui ne pense pas ça. Et il dit « Pourtant, des solutions, on en a ». Donc pour réagir à cette citation, vous, Chu, qu'est-ce que vous aimeriez répondre à ça ?
Oui, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Pour moi, ça ne veut rien dire, parce qu'elle peut aussi la produire, toute la misère du monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils viennent pas d'ailleurs. Donc c'est une phrase, je trouve c'est Michel Rocard malheureusement qui a dit ça, mais il n'avait pas dit que cette phrase, c'est un petit bout de la phrase. Mais pour moi c'est une phrase qui est vague, qui n'est pas intéressante et qui ne pourrait être prononcée que par un pays qui a décidé de lutter contre sa propre misère.
Et donc, votre film, il se passe dans la région de Calabre, en Italie. Donc, c'est où se situe le village de Riyadh. Comment est-ce que les particularités de cette région, peut-être vous pouvez nous les dire, elles s'inscrivent dans l'histoire du village ?
Alors, il y a déjà une particularité qui va répondre à la première question. C'est que la Calabre, c'est une des régions les plus pauvres d'Italie. Vous voyez, la misère, elle était là déjà. C'est beaucoup dit dans le film. Donc une des caractéristiques, c'est que c'est une région qui a été abandonnée par une grande partie de ses habitants parce qu'ils n'arrivaient pas à y vivre. Donc beaucoup sont partis en Argentine, en Amérique, en France, dans le nord de l'Italie, etc. Donc ça, c'est une caractéristique de toute la Calabre. Où que vous alliez, dans n'importe quel village, on va vous demander si vous, de quelle famille vous venez. On croit que vous venez retrouver votre village de famille. Donc la particularité de la Calabre, c'est cette espèce d'attente de celui qui est parti depuis très longtemps. Ça, c'est une caractéristique. L'autre, c'est cette pauvreté. Et une des troisièmes, c'est cette hospitalité qui est héritée pratiquement de... vous savez, c'est le territoire de la Magna Grecia. C'est vraiment une culture d'hospitalité. Ça, c'est une... Après, une autre caractéristique de cette région, c'est que comme elle a été très délaissée, très stigmatisée, très loin du pouvoir central, ça a laissé la terre libre à des grands seigneurs, on va dire. Ce sont les grands propriétaires calabrais, qu'on peut appeler plus élégamment mafia, et qui exercent une domination, une pression très importante sur les habitants de Calabre, qui pendant longtemps les ont racketés, et ça n'a fait que redoubler la misère justement de cette région. Donc c'est une région dure aussi. Ce n'est pas qu'une région merveilleuse d'hospitalité, c'est aussi une région qui a beaucoup souffert et qui souffre encore.
Et avec toute cette histoire, quel est le positionnement politique de ce village dans le rapport, par rapport à l'opinion publique italienne? Est-ce qu'on passe d'une résistance locale à une résistance nationale?
Ça, c'est très important, hein, ce que vous dites, parce que c'est le problème, en fait. Moi, je crois, en tout cas, je suis profondément convaincue que Riace a été attaqué parce que l'Italie se préparait à l'extrême droite et ne voulait pas de discours qui entrave cette préparation à l'extrême droite. Et donc, le village de Riace, politiquement, c'était pas des politiques. C'est des gens, ils connaissent pas tellement. Même Mimmo Lucano, qui par la suite a été obligé de se politiser. Maintenant, il est député européen. Mais c'était pas des politiques. C'était des gens plutôt qui étaient dans l'organisation collective de leur petit lieu. Ils se souciaient assez peu du pouvoir central, comme le pouvoir central se souciait assez peu d'eux. Et c'est d'ailleurs ce qui leur a permis une grande liberté. Parce que le pouvoir central italien se fichait complètement de savoir s'il y avait des réfugiés à Riace ou à Camigne à côté. Pendant très longtemps, ça a été ça. Donc, vous dire l'importance de la politique, je crois que, par exemple, moi, je me souviens que je parlais de Meloni dans les rues de Riace à des gens parce qu'elle venait d'être élue. Il y en a qui trouvaient ça très bien parce que c'était une femme. Ils n'avaient pas la moindre idée de ce que c'était, en fait. Et il y a... quelques-uns quand même qui avaient bien entendu les discours un peu fascistes, mais il y en a, le barman, il me disait, oh ben quand même, elle est jolie, on n'a jamais eu de femme président du conseil comme ça, et tout ça. Donc il n'y avait pas une conscience politique très importante. Après, je crois que la venue de Salvini à Riace et la façon dont il a soutenu ce maire d'opposition, ça a donné une conscience politique obligatoire. Donc je dirais que le village, il est un peu comme l'Italie. Maintenant, il est bien divisé en deux. Tous ces groupes qui étaient avec Mimmo Lucano se situent maintenant vraiment à gauche, alors qu'ils ne s'étaient pas posé la question avant, je dirais. Et ceux qui soutiennent l'autre se situent plutôt à droite, mais pas d'extrême droite. Ça, je n'ai pas entendu de discours raciste à Riace, par exemple. Ça n'existe pas. Ils ont toujours vécu avec des gens d'ailleurs.
Et où en est-on aujourd'hui à Riace et où pensez-vous qu'on sera demain avec cette situation, avec les migrants et avec les politiciens?
Ben, c'est, à mon avis, c'est un grand combat, c'est une lutte qu'il faut mener. Je pense qu'il faut la mener parce que, vous savez, bon, alors pour parler de Riace déjà... Riace, bon, maintenant qu'on sait que Mimmo a été absous, que les avocats ont réussi à montrer quand même que cette attaque était tout à fait injustifiée. Donc il est redevenu maire de Riace. et il est député européen. Donc à Riace, ça va plutôt bien, même si ils sont obligés de continuer sans la solidarité nationale, parce qu'il n'y a plus du tout de subvention. Donc ils marchent avec la solidarité des gens, des fondations privées, et puis d'autres pays, d'Allemagne, de France et tout ça, de gens qui les soutiennent. Ça, c'est pour la situation de Riace. Après, pour la nôtre de situation et pour la situation avec les migrants, je crois qu'il est... Il y a vraiment une lutte à mener, quoi. Il y a une lutte et il faut être très calme. Il faut être très, très calme. Ce n'est pas possible, la politique que veut mener l'Europe. Elle n'est pas réaliste. C'est elle qui n'est pas calme. C'est elle qui met du désordre. C'est cette politique-là, de mon point de vue. De mon point de vue, laisser des gens mourir en Méditerranée, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire l'histoire de son pays ou de son continent en ayant des milliers de morts sur la conscience. Pour moi, ce n'est pas possible. Et je pense que tous les gens qui vont réfléchir, et en promenant avec ce film, je m'aperçois qu'il y a un nombre de gens solidaires en France qui ne sont pas du tout dans ce discours dominant. On ne veut pas de migrants, on ne veut pas de bateaux, on ne veut pas... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comme ça. Moi, j'ai vu, mais plein dans le moindre petit village, des gens qui accueillent, des gens qui ont une famille chez eux, des gens qui font partie d'une... Donc, moi, il me semble qu'en France, la difficulté, c'est de fédérer ces gens-là. Et c'est qu'on entende leur voix, parce que je trouve qu'on ne l'entend pas tellement, et pourtant, ils sont très nombreux. Et je trouve qu'on ne l'entend pas. C'est peut-être aussi la mission qu'on se donne, ou le film, ou Cédric Herrou aussi, ce qu'il a fait à La Roya. C'est bien qu'il y ait des films sur ces gens-là, parce qu'on n'entend pas parler d'eux. Et il y en a beaucoup, pourtant.
Je pense que je suis très d'accord avec vous quand vous dites que c'est une politique, enfin, c'est quelque chose qui ne peut pas être réalisé.
Non.
Encore que ces mêmes gens qui renvoient les migrants, qui leur montrent une belle image de l'Europe et qui leur vendent le rêve européen. Et c'est quand même bien dommage qu'ils veulent qu'ils pourrissent en mer après les avoir incités à arriver. Je ne sais pas si les habitants de Riace ont vu votre documentaire.
Ils ont vu le premier.
Mais pas le deuxième.
Alors, le deuxième, certains l'ont vu, de Riace. Bon, Mimo Lucano l'a vu, son avocat, tout ça. Parce qu'on leur a montré, même avant qu'il soit fini, pour être sûr qu'on ne disait pas de bêtises, par rapport à la procédure. Hein. Le reste, on ne leur demandait pas de nous censurer, mais c'était par rapport à la procédure, on ne voulait pas faire d'erreur. Donc, eux, ils l'ont vu. Et puis après, certains l'ont vu, mais nous, on n'est pas encore allé le montrer à Riace.
Okay.
Parce que le problème, c'est que la population de Riace s'est beaucoup divisée. Il y a eu des grosses blessures après cette histoire-là. Et donc, on va attendre qu'ils nous demandent. Et pour l'instant, ils ne nous le demandent pas parce qu'ils savent, certains d'entre eux savent qu'ils vont se voir à l'écran passer de l'autre côté, avoir trahi dans leur esprit. Et donc, il faut peut-être laisser maintenant la plaie se refermer avant de montrer. Donc, on ira le montrer à Riace et quand ils nous le demanderont. Le premier, ils l'ont tous vu, par contre.
Et pour les gens qui l'ont vu, les quelques personnes qui l'ont vu, c'est quoi un peu les réactions
de Riace et les gens de Riace? Ben, ceux qui l'ont vu, c'est des gens qui sont assez actifs dans Riace, et comme Carla, par exemple, qui a ouvert une petite bibliothèque à Riace, gratuite et tout ça. Elle a adoré, elle a pleuré en le voyant, tout ça. Donc, tous les proches de Mime, on l'a montré quand même à pas mal de gens, hein, qu'on voit dans ces manifestations, tout ça, qui ne sont pas forcément de Riace, d'ailleurs. Mais ceux-là ont été très touchés. Il y a un seul qui n'a pas supporté le film du tout, c'est Mimo. Parce que Mimo, ça a été horrible pour lui de voir ça. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, quand il a vu le film, l'appel n'avait pas été encore prononcé. Hein. Donc ouais. Il était encore sous le coup des 13 ans. Et quand il a vu le film, il était en larmes au bout de 10 minutes. Il ne pouvait plus revivre tout ça. Et donc, on lui a dit, écoute, on te comprend, tu sors, on serait à ta place, on serait pareil. On ne supporterait pas de revivre ça, quoi. Oui. Donc, il ne l'a pas vu jusqu'au bout. Il n'a pas vu jusqu'au bout. Il sait, il nous fait confiance, il sait qu'on l'a aidé. Il en a vu un petit bout à Marseille, parce qu'à Marseille, on a demandé au maire de lui donner la médaille d'honneur de la ville. Parce que ça, pour aider en procès d'appel, le fait que des grandes villes le soutiennent, ça a aidé. Oui. Donc le maire a accepté de le faire. Donc à cette occasion, on a montré une partie du film, mais pas tout. Mais il a du mal, il est comme ça, quoi, à chaque fois. C'est, et puis la peur qu'on croit... Quand à un moment, il y a son avocat Pisapi qui lit les motivations du juge et qui dit qu'il est mu par le démon, du pouvoir, enfin des trucs complètement fous. Mais Mimo, c'est quelqu'un de très naïf. Il me dit, mais si des gens le croient, tu es sûr qu'il faut mettre ça si des gens le croient? Voilà.
Eh bien, on vous remercie beaucoup. Malheureusement, l'émission a touché à sa fin. On aimerait bien continuer de discuter avec vous. Mais...
Merci à vous.
Mais c'est très gentil d'être venu et d'avoir pris tout ce temps pour discuter avec nous. On voulait vous demander encore, est-ce qu'il y a d'autres dates de projection qui sont prévues ou est-ce qu'on peut retrouver le film en ligne pour le payer ou...
Alors vous pouvez déjà, pour connaître le destin du film, vous pouvez chercher sur internet Vrai Vrai Film. C'est notre distributeur, il y a toutes les dates. C'est Vrai Vrai Film, vous le cherchez, c'est bien. Et dans la région, je peux vous dire qu'il va y avoir... des projections en Savoie, en Haute-Savoie, donc à, je vais vous dire tout, à Cusy le vendredi 31, à La Roche-sur-Foron et à Saint-Pierre. Voilà, ça sera le 31 janvier, 1er février, 2 février. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres dates dans beaucoup d'autres endroits et vous regardez Vrai Vrai Film.
Ça marche. Eh ben, merci beaucoup pour merci cette émission. Et merci Joël d'avoir
merci beaucoup,
co-animé avec moi. Et on remercie aujourd'hui Oscar qui était à la technique.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.